Bonsoir à toutes et à tous.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du Monde aujourd'hui, en ce mercredi 29 mars 2023. Un énorme dispositif des forces de l'ordre a été déployé à Dakar au Sénégal pour une manifestation interdite. Au Burkina Faso, la société civile s'inquiète après des cas d'enrôlement forcé dans les forces de défense.
Je ne sais pas sur quelle base aujourd'hui le chef de l'État peut, au mépris de la loi, enrôler les citoyens burkinabés.
Nous retrouverons dans la partie magazine Daouda Diallo, président du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Ouverture aujourd'hui du sommet pour la démocratie, le président américain Joe Biden appelle à l'unité face au déclin de la démocratie. Un énorme dispositif, Vladimir Poutine du moins, admet que les sanctions internationales visant Moscou pour son offensive en Ukraine peuvent avoir des conséquences négatives. À moyen terme, sur l'économie de la Russie, ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Eco pour l'instant. Le journal. Direction Dakar, le préfet a interdit la marche que l'opposition sénégalaise voulait organiser dans la lignée de ses protestations contre une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall et contre la restriction des libertés qu'elle dénonce. Un impressionnant dispositif est déployé par la police et la gendarmerie pour éviter des manifestations qui sont cependant notées ça et là dans les banlieues de la capitale. Davantage avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
À 15h, l'heure prévue pour la grande marche de la coalition d'opposition Yewi Askanwi, pas de militants, pas de leaders, pas de manifestants. Personne n'est présent au rond-point de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, excepté les forces de défense et de sécurité qui ont déployé un impressionnant dispositif pour faire respecter l'interdiction préfectorale. Le même dispositif est de mise à la cité Kergourgui, où l'opposant Ousmane Sonko est bloqué chez lui, une mesure devenue courante lorsque ces derniers appellent à manifester ou doivent aller répondre à la justice. D'ailleurs, l'opposant l'a dénoncé plusieurs fois, indiquant que le blocus de sa maison était contraire à la loi car elle ne repose sur aucune décision de justice. Malgré ces contestations, la police et la gendarmerie contrôlent toujours les axes menant chez lui. La présence des forces de défense et de sécurité est également visible dans les points stratégiques de la capitale avec souvent des engins blindés, ce qui n'empêche pas quelques manifestations sporadiques, notamment dans la banlieue de Dakar. Il faut enfin noter que beaucoup d'entreprises et certaines institutions bancaires ont annoncé des restrictions sur leurs activités habituelles pour anticiper sur d'éventuels troubles. Seydina Bagay pour VOA Afrique. Dakar.
Le gouvernement allemand a ouvert la voie aujourd'hui à la participation de troupes allemandes à une mission militaire de l'Union européenne au Niger. L'Allemagne a l'intention de déployer jusqu'à 60 soldats dans le pays dans le cadre d'une opération de l'Union européenne destinée à soutenir le gouvernement de Niamey. La décision finale concernant la participation de Berlin revient au Parlement allemand qui devrait se prononcer à la fin du mois d'avril. L'Union européenne a décidé en décembre de mettre en place une mission de 3 ans au Niger, entre 50 et 100 soldats européens seront donc déployés dans un premier temps, puis 300 à terme pour aider le Niger à améliorer sa logistique et ses infrastructures militaire. La vice-présidente américaine Kamala Harris a conclu sa visite de 3 jours au Ghana par une table ronde réunissant des femmes entrepreneurs. Elle sera à Dar es Salaam en Tanzanie, deuxième étape de sa tournée dans 3 pays africains. Alexandrine Loignon.
Le bien-être des femmes sera le reflet du bien-être de l'ensemble de la société, a déclaré Kamala Harris lors d'une réunion avec 6 femmes chefs d'entreprise ghanéennes. C'était lors de son dernier événement au Ghana avant son départ pour la Tanzanie. Kamala Harris s'est entretenue avec des journalistes à Accra. Elle a répondu à des questions sur les femmes et l'impact de la sécurité sur le bien-être économique, la participation des femmes à la démocratie et l'actuel sommet sur la démocratie et sur l'influence des États-Unis et de la Chine en Afrique. Hier, elle a effectué une visite guidée au château de Cape Coast, classé au patrimoine mondial, où les esclaves étaient expédiés vers les Amériques et les Caraïbes. Elle a déposé une gerbe en l'honneur de ceux qui sont morts pendant la traite des esclaves. L'horreur de ce qui s'est passé ici doit toujours rester dans les mémoires, a déclaré Mme Harris lors d'une allocution solennelle.
Au Lesotho, le Parlement examine une proposition de loi visant à récupérer des terres sud-africaines historiques. L'opposition présente la motion visant à déclarer la province sud-africaine du Free State qui borde le Lesotho ainsi que des zones de 4 autres provinces comme faisant partie du royaume. Les régions en question étaient historiquement peuplées par les Basotho, peuple bantou d'Afrique australe largement majoritaire dans le pays. Le gouvernement du Lesotho pourrait toutefois choisir de mettre des freins à l'adoption d'une telle loi pour ne pas entrer en confrontation avec son puissant voisin sud-africain. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a sanctionné des juges de son pays évoquant un ver dans le fruit pour dénoncer la corruption parmi les magistrats. Les médias locaux font état aujourd'hui d'un grand ménage à propos de la vingtaine de magistrats sanctionnés. Les conflits ont un impact dévastateur sur l'éducation des enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est alarmé aujourd'hui l'UNICEF. Entre janvier 2022 et mars 2023, au moins 2100 écoles ont fermé. L'éducation d'environ 750 000 enfants a été perturbée dans le nord Kivu et l'Ituri, les deux provinces les plus touchées par les violences, indique dans un communiqué le bureau de l'UNICEF en RDC.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a ouvert le sommet pour la démocratie qu'il estime être un point d'inflexion face aux autoritarismes. Il a annoncé près de 700 millions de dollars pour appuyer le renouveau démocratique dans le monde. Le point avec Nani Talani.
Le président Joe Biden a invité 121 dirigeants, dont des premiers ministres proches des États-Unis, à participer à cette deuxième édition largement virtuelle co-organisée avec la Zambie, le Costa Rica, les Pays-Bas et la Corée du Sud. Les dirigeants de ces cinq pays hôtes vont participer à une séance virtuelle ce mercredi. Celle du président américain est consacrée à la réponse des démocraties aux défis mondiaux à laquelle a été convié le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le sommet va œuvrer à tenir la Russie responsable de sa guerre injuste contre l'Ukraine, montrant que les démocraties sont fortes et résolues, a déclaré Biden dans un bref discours d'ouverture. Le président Biden doit annoncer 690 millions de dollars pour appuyer le renouveau démocratique dans le monde, a indiqué un responsable américain sous couvert d'anonymat. Cette enveloppe doit aider à promouvoir la tenue d'élections justes et libres, la défense des droits humains et la liberté de la presse, ainsi que la lutte contre la corruption, a-t-il précisé. Les menaces posées par les nouvelles technologies vont occuper une large part des débats.
Les sanctions internationales visant Moscou pour son offensive en Ukraine peuvent avoir des conséquences négatives à moyen terme sur l'économie de la Russie. C'est ce qu'admet aujourd'hui Vladimir Poutine après avoir vanté ces derniers mois l'adaptation de la Russie face à cette nouvelle conjoncture. John Lydon.
Les sanctions imposées à l'économie russe à moyen terme peuvent vraiment avoir un impact négatif sur celle-ci, a mis en garde le président russe lors d'une réunion avec le gouvernement retransmise à la télévision. C'est la première fois que Vladimir Poutine admet publiquement que la pluie des sanctions qui touche de nombreux secteurs de l'activité russe, dont celui stratégique des hydrocarbures, affecte l'économie nationale. Plus d'un an après le déclenchement de l'offensive en Ukraine, le chômage est à son niveau le plus bas à 3,6% et fin mars, l'inflation va tomber en dessous des 4% après avoir flambé à près de 20% au printemps dernier, a déclaré M. Poutine. Mais cela ne veut pas dire que tous les problèmes ont été résolus, a-t-il averti face aux membres de son gouvernement. Cette sortie de Vladimir Poutine intervient une semaine après un sommet à Moscou avec son homologue chinois Xi Jinping pour approfondir les relations économiques russo-chinoise.
Le roi Charles d'Angleterre est en Allemagne pour sa première visite d'État en tant que souverain du Royaume-Uni, un déplacement visant à rétablir les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne après le Brexit. Cette visite intervient alors que Charles III était attendu en France du 26 au 29 mars, voyage reporté en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Le monarque britannique, accompagné de son épouse Camilla, doit rester 3 jours en Allemagne. Le pape François, âgé de 86 ans, a été hospitalisé ce mercredi à Rome pour des examens qui avaient déjà été programmés en amont, a annoncé le Vatican. Le Vatican ne donne pas davantage de précisions. François, qui se déplace en chaise roulante depuis mai 2022 en raison de douleurs chroniques au genou, avait déjà été hospitalisé pendant 10 jours à l'hôpital Gemelli en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Des milliers d'Africains de l'Ouest s'aventurent à Banta Kokuta, dans l'Est du Sénégal, à la recherche de l'or dans cette région frontalière avec le Mali et la Guinée. Les mineurs de Banta Kokuta partent souvent au bout de 6 mois après avoir gagné des revenus leur permettant d'investir dans une activité économique. Mais les risques sont nombreux avec des glissements de terrain qui tuent régulièrement. Les assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et les assemblées du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement 2023 se tiendront à Sharm el-Sheikh en Égypte du 22 au 26 mai. Les gouverneurs vont discuter des défis de l'Afrique pour attirer des financements du secteur privé dans des investissements à faible émission de carbone et des politiques des gouvernements. Terminons par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui se rendra en Chine vendredi 30 mars pour rencontrer la nouvelle équipe dirigeante chinoise et discuter des moyens d'accélérer le processus de restructuration de la dette qui englobe le Ghana, la Zambie et l'Éthiopie.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le nombre de pays qualifiés pour la CAN 2023 est passé à 7.
8 après le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Algérie, 4 autres pays ont composté leur billet pour la Côte d'Ivoire lors de la 4e journée des éliminatoires bouclées ce mercredi. Il s'agit du Sénégal, champion en titre, qui a arraché son ticket grâce à sa victoire 1-0. Au Mozambique, pareil pour le Burkina Faso, qui a fait match nul à Lomé, un but partout, mais suffisant pour être sûr d'être en Côte d'Ivoire. La Tunisie a aussi composté son billet dès cette 4e journée, après son succès 1-0 hier devant la Libye. Idem pour l'Afrique du Sud, qui a battu le Libéria 2-1. Dans le dernier match de cette 4e journée disputée à Kigali entre le Rwanda et le Bénin, les deux équipes se sont séparées 1 partout. Il reste encore 17 places à prendre lors des 2 dernières journées prévues en juin et septembre prochains.
Hier mardi se jouait aussi le dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Grosse désillusion pour le Sénégal. Vainqueur à l'aller 3-1, les espoirs sénégalais ont été douchés à Bamako lors du match retour 3-0. Le Mali arrache ainsi son billet pour le Maroc qui accueille la compétition. Alou Badra Diallo Conti, sélectionneur du Mali.
Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Nous avons eu un peu plus de temps de préparation pour vraiment étudier l'adversaire. Ils n'ont pas changé pratiquement de système. En fait, ils allaient venir regrouper et attaquer. Nous avons quand même motivé nos jeunes. J'ai fait croire aux jeunes que c'est leur avenir. Une bonne fois pour eux de rentrer dans l'histoire.
Alou Badra Diallo Conti, sélectionneur des moins de 23 ans du Mali. En face, le sélectionneur du Sénégal, Demba Mbaye, dit tirer les conséquences de cet échec.
On n'a pas été capable d'imposer des duels. Je dois analyser les raisons de l'échec et en tirer sans doute les conséquences qui s'imposeront.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Des illusions aussi pour le Cameroun, battu 1-0 au Gabon à l'aller. Les Lionceaux indomptables ont gagné sur le même score au retour, mais se sont inclinés au tir au but. 7 tirs réussis contre 6. Ça passe pour le Ghana après leur match nul 1-1 à l'aller en Algérie. Les Ghanéens l'ont emporté 1-0 chez eux. La Guinée a aussi réussi à se qualifier après avoir éliminé le Nigeria 2-0. Bien avant, l'Égypte et le Congo ont validé leur billet. La phase finale de la CAN des moins de 23 ans est prévue du 24 juillet au 8 juillet prochain au Maroc. Les 3 premiers se qualifieront pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Basketball à présent avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
Stephen Curry a donné un peu d'oxygène aux Warriors. Les détails avec Bagassi Koura.
Oui, un coup de chaud de Stephen Curry, auteur de 39 points, a permis à Golden State de renverser la Nouvelle-Orléans 120-109. Le fondeur a été surpris 137-134 sur son parquet par les Hornets. Déjà qualifié, Memphis a enchaîné un 7e succès à Orlando 113-108. À l'Est, Toronto a obtenu une 3e victoire d'affilée 106-92 face à Miami. Le Camerounais Pascal Siakam a inscrit 26 points et récupéré 9 rebonds Atlanta a arraché un succès contre Cleveland, 120-118. Washington a enregistré une précieuse victoire aux dépens de Boston, 130-111.
Merci, Bagassi.
Page de sport VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés ont exprimé dans des communiqués séparés leur inquiétude après ce qu'elles qualifient de cas d'enlèvement et d'enrôlement forcé de citoyens comme supplétifs de l'armée dans la lutte contre le djihadisme. C'est le cas de Boukari Ouédraogo, enrôlé comme volontaire pour la défense de la patrie, ainsi que deux autres cas à Ouaga. Les deux organisations dénoncent une arrestation arbitraire et appellent à leur libération immédiate. Yakuba Ouedraogo a joint à Ouagadougou Daouda Diallo, président du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Il y a le cas de Boukari Ouedraogo qui a été reçu en audience par le chef de l'État dans le centre nord, à Kaya précisément. Et en plein milieu d'audience, il a décidé d'enrôler le responsable du mouvement appel de Kaya, c'est-à-dire Boukari Ouedraogo, comme volontaire pour la défense de la patrie. Des propos que ce dernier aurait tenus et qui aurait donné une position stratégique au groupe ennemi. Pourtant, ce dernier n'a fait qu'alerter pour demander plus de sécurité pour protéger le source de ravitaillement en eau de la région du centre nord. Le deuxième cas d'enrôlement forcé, c'est le samedi 25 mars 2023. Un certain Ouedraogo Issaka, qui est le président de la coalition pour la convergence patriotique, qui a été aussi enrôlé juste après sa conférence de presse tenue à la Maison de la Femme. La traque a continué contre les membres de ce mouvement et deuxième personne a été encore enrôlée forcément. Et ce qui arrive est une violation très grave des droits humains et de la loi adoptée le 28 novembre 2022 à l'Assemblée nationale qui stipule clairement que l'enrôlement pour la défense nationale, il est volontaire et il faut des personnes de bonne moralité et jouissant d'une bonne aptitude physique et mentale. Donc je ne sais pas sur quelle base aujourd'hui le chef de l'État peut, au mépris de la loi, enrôler les citoyens burkinabés qui également apportent leurs contributions sur la base de la veille citoyenne et également soutenir l'effort de l'autorité au niveau local.
Est-ce que vous comprenez la communication de guerre que veut instaurer le gouvernement?
Oui, on est d'accord avec la communication de guerre avec la situation, on comprend, mais ici, on s'inscrit en faux par rapport à l'accusation portée à Boukari Ouedraogo parce que le lac Dem, c'est-à-dire le site qui est estimé stratégique, était à sa troisième attaque. Donc, ce n'est pas Boukari Ouedraogo qui a indiqué au groupe djihadiste que c'est une position stratégique, mais c'est le groupe djihadiste qui ont tenté à maintes reprises de contrôler cette zone stratégique. Et donc, Boukari Ouedraogo n'a fait qu'insister pour dire qu'au regard des menaces et des défiances qui plantent sur cette localité et sur le site stratégique, il y a lieu de renforcer la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux pour un citoyen? Il faut qu'on respecte la loi, la vérité. Et dans cette dynamique, on peut soutenir l'effort de nos autorités et l'armée qui fait un formidable travail pour garantir la sécurité au Burkinabé.
Vous êtes dirigeant d'une organisation de la société civile. Est-ce que vous sentez que désormais votre liberté d'expression peut être remise en cause?
Il y a plusieurs cas de manifestation de la négation de la liberté d'expression et de la liberté de presse aujourd'hui que l'on constate de plus en plus. Il y a ces cas d'arrestation des leaders d'opinion de la société civile enrôlés, forcés, comme BDP. C'est à quoi nous assistons actuellement. C'est vraiment la négation de la liberté de la presse et des médias, la négation de la liberté d'opinion. Il faut accepter la critique constructive et là, dans la vérité et dans la détermination du peuple burkinabé, on aura la victoire.
Daouda Diallo, président du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les Camerounais ont une perception négative des activités de la police municipale. L'étude a été conduite par l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, qui recommande de repenser l'organisation de la police municipale pour en faire un instrument de cohésion sociale. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jelentap.
Les activités de la police municipale au Cameroun sont mal perçues par plus de 42% des personnes interrogées dans quatre grandes métropoles du pays. Ces Camerounais imputent à la police municipale des actes de violence, des saisies arbitraires de biens et marchandises, entre autres. Cyril Roland Béchon, directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, auteur de l'étude.
L'étude aussi avait pour vocation de remettre en avant la question de la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans l'action, n'est-ce pas, des municipalités. Nous avons donc produit un document de politique qui va donc servir à orienter les échanges et les discussions avec les partenaires aussi bien gouvernementaux que partenaires bilatéraux du Cameroun.
La police municipale existe au Cameroun depuis 2004. Mais le décret présidentiel qui fixe son organisation et son fonctionnement date d'août 2022. Une fois de plus, la directrice de Nouveaux Droits de l'Homme, Cyril Roland Béchon.
Les recommandations vont de la reformulation du décret à la formation des agents en droits humains, en passant aussi par l'éducation de la citoyenneté des populations, mais surtout à la clarification et à la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens.
L'un des facteurs à risque dans les activités actuelles de la police municipale est relatif à l'absence des mécanismes de plainte en cas de dérive des agents de la dite police. Steve Tameton, expert en gouvernance.
Le plaidoyer, donc, c'est en faveur de l'instauration d'un de ces mécanismes qui permettent aux citoyens de savoir exactement où ils peuvent s'orienter pour expliquer leur plainte et, en conséquence, bénéficier des avantages liés à leur position de citoyen et d'administré.
Bienvenue au Linga. Est le coordonnateur des activités de la police municipale à la mairie du 5e arrondissement de Yaoundé, l'une des plus principales de la capitale. Il réagit aux résultats de l'étude.
Je pense que ce serait pas normal de dire mal nécessaire, mais plutôt un maillon essentiel dans la régulation de l'ordre urbain. La perception de la police municipale qui mène des activités de régulation de l'ordre urbain, c'est très difficile parce qu'ils sont au quotidien. Donc ça sera une mauvaise perception comme le résultat le témoigne.
Le décret présidentiel qui a créé la police municipale a prévu une formation que les agents municipaux doivent suivre au sein d'une institution basée à Boya, au sud-ouest, en zone anglophone. Une école éloignée de certaines régions du pays. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a entamé dimanche une tournée au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Les États-Unis veulent resserrer les liens avec le continent africain dans un contexte marqué par une forte concurrence avec la Chine et la Russie. Mouamadou Mfa s'est entretenu avec le docteur Christophe Fomunio, directeur Afrique du National Democratic Institute, un think tank basé ici à Washington, D.C.
Pendant les 4 années de l'administration Trump, il n'y avait pas un grand intéressement à la politique africaine. Donc Biden voudrait démontrer qu'il est attaché au continent, que la nouvelle politique américaine qui a été déroulée en août 2022 porte, et surtout que le dernier sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 qui a arrêté un certain nombre de recommandations que cela devrait être suivi et pris au sérieux. Cela explique pourquoi il y a ce déploiement des autorités américaines à travers le continent.
Oui, effectivement, ces derniers mois, il y a eu plusieurs hauts responsables américains qui sont rendus en Afrique. Je pense là à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Il y a eu le secrétaire d'État lui-même, Anthony Blinken, qui était en Afrique. Toutes ces visites, ce n'est pas par hasard pour contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent.
Effectivement, certains pourraient toujours penser que c'est cette rivalité entre les grandes puissances qui joue. Mais n'oublions pas aussi que, quelque part, cette administration voudrait démontrer son sérieux par rapport à des bonnes relations avec l'Afrique et aussi mener sa propre politique, quelles que soient les relations que les différents pays africains peuvent mener avec d'autres puissances à travers le monde. Le secrétaire d'État Tony Blinken est allé allé au Niger pour la première fois. C'est la première fois dans l'histoire qu'un secrétaire d'État des États-Unis a atterri à Niamey. Sur notre continent, nous sommes encore dans la diplomatie de proximité. Les gens aiment vous voir, vous sentir à des moments difficiles, mais aussi à des moments de joie. Et c'est par ces relations-là qu'on peut vraiment renforcer les relations entre les États-Unis et le continent africain.
Et on a le sentiment que les Américains mettent de moins en moins l'accent sur les thématiques qui fâchent certains chefs d'État, comme les droits de l'homme, comme la démocratie. Est-ce que c'est une perception juste, Dr Pomenio?
C'est une inquiétude dans certains milieux, surtout pour nous autres qui sommes très focalisés sur les questions de la démocratie et de la bonne gouvernance. On doit veiller à ce que dans cette démarche qui va dans le sens de vouloir consolider les relations, que les sujets de la démocratie et de la bonne gouvernance soient toujours traités comme une priorité. Je suis très heureux de constater que dans les quatre piliers de la politique de l'administration Biden, tels que déroulés dans sa stratégie africaine au mois d'août 2022, la démocratie et la bonne gouvernance, ainsi que les questions de sécurité, figurent en bonne place.
Est-ce que Washington doit continuer à considérer que la démocratie est déterminante pour le continent africain?
Je crois que oui, parce que dans les sondages qui sont faits par Afrobaromètre et d'autres institutions reconnues, plus de 70% des Africains aspirent à vivre dans des pays démocratiques.
Dr Christophe Fomunio, directeur Afrique du National Democratic Institute. Le département d'État américain accueille le deuxième sommet pour la démocratie avec 120 pays, des groupes de la société civile et des entreprises technologiques. Ce sommet virtuel inclut certains pays qui ont été critiqués récemment pour leur politique antidémocratique comme l'Inde, Israël et la Pologne. Les séances de ce mardi se sont concentrées sur l'Ukraine. Le point avec Cindy Sen, correspondant de la VOA, le récit est de Dili Diko.
Cette unité ukrainienne tire un obusier français en direction des lignes russes dans la région orientale de Donetsk, alors que l'Ukraine continue d'essayer de repousser l'invasion russe. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, s'est exprimé à distance mardi lors du sommet sur la démocratie organisé par les États-Unis, déclarant que le peuple ukrainien souhaite la paix plus que quiconque, mais que la paix à tout prix est une illusion.
Le peuple ukrainien n'acceptera la paix que si elle garantit la cessation totale de l'agression russe, le retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien et le rétablissement de l'intégrité totale de notre État à l'intérieur des frontières internationalement reconnues.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken a ouvert le débat du sommet sur la démocratie mardi en déclarant que rien n'illustre mieux la menace que les dictatures font peur sur les démocraties que l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie. Monsieur Blinken a approuvé la proposition de paix de l'Ukraine et en a rejeté d'autres comme celle de la Chine, sans citer de nom.
I think we all have to be very much aware and beware.
Nous devons tous être très conscients et nous méfier des efforts qui peuvent sembler bien intentionnés, par exemple, pour appeler à des cessez-le-feu, ce qui pourra avoir pour effet de geler le conflit, de permettre à la Russie de consolider les gains qu'elle a réalisés et d'utiliser simplement le temps pour se reposer et se remettre en état, puis de réattaquer.
Un expert a déclaré à la VOA que le deuxième sommet sur la démocratie organisé par le président Joe Biden devait faire face à plusieurs défis, notamment des tensions avec des alliés proches des États-Unis tels qu'Israël. Mais il a ajouté que l'obtention d'un soutien pour l'Ukraine était l'un des principaux objectifs du sommet. Michael Kimmage est professeur d'histoire à l'Université catholique. Il s'est entretenu avec la VOA via Zoom.
Il y a des événements dramatiques en Israël qui touchent la substance même de ce qu'est Israël en tant que démocratie. On assiste à un retour en arrière de la part de plusieurs pays européens. C'est une vieille histoire. Mais je pense que le principal problème pour le président Biden est que de nombreuses démocraties, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde par exemple, ne soutiennent pas particulièrement la position des États-Unis sur la guerre en Ukraine.
Monsieur Kimmage a déclaré à la VOA qu'en dépit des difficultés, les résultats obtenus sur le champ de bataille sous la direction du président ukrainien démocratiquement élu, Volodymyr Zelensky, face à une armée russe qui, sur le papier, est supérieure, sont une source d'inspiration et pourraient constituer une force galvanisante pour la démocratie dans le monde entier.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.